Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud. Traité Yoma, page 66, Dav Samer Vav. Bonne écoute et bon limoud.
Vim Nitabra, si un mois a été ajouté au calendrier juif, comme on le fait en moyenne une fois tous les 3 ans pour combler la différence entre l'année lunaire et l'année solaire, Nitabra la Mocher, c'est le vendeur qui a gagné, il aura en effet un mois supplémentaire pour racheter sa maison. Nous avons donc une discussion entre Rabbi et Rabbanan, à savoir quelle est la taille de l'année que la Torah a donnée au vendeur d'une maison dans une ville fortifiée pour racheter sa maison. Selon Rabbi, c'est une année solaire de 365 jours. Selon Rabbanan, c'est une année lunaire. Selon le cas, ou 354 jours, ou un mois de plus, donc 384 jours. Cette discussion est reportée aussi à propos des corbanotes, notamment à propos des animaux ne pouvant être offerts pour certains corbanotes que pendant la première année qui suit leur naissance. Selon Rabbi, il s'agit d'une année solaire, et selon Rabbanan, c'est une année lunaire. C'est pourquoi il est possible que le bouc désigné Erev Yom Kippour pour le service de Yom Kippour et qui a été fait le 8e jour qui suit sa naissance, donc s'il n'a pas pu être utilisé le Yom Kippour de cette année parce qu'il a été perdu et remplacé par un autre, il se trouve que donc le jour du Yom Kippour l'année d'après, donc le 356e jour qui suit la veille de Yom Kippour, ce bouc donc est au 364e jour de sa vie, donc juste avant la fin de la première année qui suit sa naissance, selon l'avis de Rabbi. Néanmoins, les Chachamim ont décrété de ne pas utiliser un bouc l'année suivante, de peur que ce ne soit pas exactement comme ça, et qu'on dépasse l'année qui suit sa naissance. La Gemara demande, Hatinach Sayir, on comprend bien que le bouc ne puisse pas être utilisé l'année d'après par Maïka le Memar, mais pourquoi est-ce que le taureau du Kohen Gadol ne peut pas être utilisé l'année d'après, puisque pour lui, il n'y a pas de restriction quant à l'âge où il peut être offert. La Gemara répond, Gzera par Atusayir. Les Chachamim ont décrété de ne pas utiliser le taureau, de peur qu'on vienne à utiliser le bouc ayant servi pour Yom Kippour. La Gemara demande, Umishum Gzera Yamut, est-ce qu'à cause d'un décret, on dira que le taureau mourra, il suffit de l'envoyer au pâturage et de ne pas l'utiliser. Veod, et en plus, Chatat Shavra Shnata, des riyaz, là. La lacha est qu'un korban chatat, dont la première année qui suit sa naissance a été dépassée, il ne devra pas mourir, mais sera envoyé au pâturage. Dehamar, parce qu'a dit Resh Lakish, Chatat Shavra Shnata, un korban chatat, dont la première année qui suit sa naissance a été dépassée avant qu'il soit offert. Roim Ota, Kilu Yomed Betakvaot, on considère comme s'il était dans un cimetière, c'est-à-dire dans un endroit où le Kohen ne peut pas venir la chercher pour l'offrir dans le Betamigdash. Veroa, et à ce moment-là, on l'enverra au pâturage. Parce que, selon l'avis de Resh Lakish, ce problème d'avoir dépassé l'année réglementaire pour offrir ce korban chatat n'est pas un problème assez grave pour décréter que cet animal meurt. Alors, puisque c'est comme ça, ce bouc qui ne peut pas être employé le Yom Kippour suivant, parce que de peur qu'il ait dépassé l'année réglementaire, ne devrait quand même pas mourir selon l'avis de Rabbi Yehuda, mais on devrait tout simplement l'envoyer au pâturage. Donc nous ne comprenons toujours pas cette braïta qu'on a vue plus haut. Et là, c'est pourquoi Amar Rava a dit Rava, une autre explication, Gezera Mishum Takala, la raison pour laquelle le taureau et le bouc n'ayant pas servi le Yom Kippour devront mourir, ne pourront pas être employés l'année prochaine pour le service du Yom Kippour, est un décret des Chachamim, de peur qu'un problème surgisse, la Gemara expliquera. Il faut lire ici de Tanya, parce que nous voyons dans une braïta, En Magdishim, on ne pourra pas sanctifier quelque chose, rendre quelque chose d'Ekdesh pour le Betamigdash, Ven Marichim, on ne pourra pas s'engager à payer la valeur d'un homme selon les critères fixés par la Torah, Ven Macharonim, on ne pourra pas rendre quelque chose d'Ekdesh en employant le langage de Cherem, qui est aussi pour le Betamigdash, Bismanazé, de nos jours où nous n'avons pas le Betamigdash. Et cela à cause du problème qui pourrait surgir. Le problème est qu'on risque de s'en servir par inadvertance et transgresser l'interdiction de Meïla, qui est de tirer profit de quelque chose qui appartient au Hekdesh. Bim Higdish Et si il a rendu quelque chose ekdesh, ve'erich, ou bien s'est engagé à payer la valeur d'un homme selon les critères fixés par la Torah, ve'erim, ou bien a rendu quelque chose ekdesh en employant le langage de Kherem, alors il fera la chose suivante. Behema, s'il s'agit d'un animal, teaker, elle sera détruite, la Gemara expliquera comment. Perot, ksout, s'il s'agit de fruits ou d'habits, vekelim et des ustensiles, irakvu, on le laissera pourrir ou s'abîmer, jusqu'à ce qu'il soit inutilisable. Maot, vekelim atrot, s'il s'agit d'argent ou d'ustensiles en métal, yolichana liyamamelach, il amènera la contre-valeur de ces objets à la mer morte pour qu'ils soient détruits par l'effet du sel. Be'ezehu iku, que veut dire le terme de iku, quand on a dit que la bête sera détruite. La Breita explique, Noël delet lefanea, il l'enferme dans une chambre, il ferme la porte devant elle, et il met amelea, et elle mourra d'elle-même. On ne veut pas la tuer directement pour ne pas porter atteinte directement au Hekdesh. La Gemara demande, Takala de Maï, ici à propos du taureau ou du bouc qui reste du service des Yom Kippour, quel problème peut surgir, puisque finalement il s'agit juste de le garder un an. Là on peut faire attention de ne pas s'en servir par inadvertance. La Gemara demande, I Takala de Akrava, si le problème qui peut surgir est le fait qu'on risque de l'offrir par inadvertance sur le Mizbéar, et qui est donc interdit parce qu'elle n'est pas apte à être offerte, ils ne sont pas aptes à être offerts, à Filukol Riotnami, on devrait dire la même chose pour tout animal qu'on envoie au pâturage. On devrait décréter que ces animaux doivent mourir, de peur qu'on les offre par inadvertance sur le Mizbéar. I Takala de Gizavavoda, si le problème qui risque de surgir est le problème qu'on risque de tondre ou de faire travailler ces animaux, donc ce taureau et ce bouc, c'est pourquoi les Chachamim ont décrété qu'ils doivent mourir, on ne pourra pas les garder pour l'année prochaine, a fait le coloriot nami. Alors on devrait dire la même chose pour tous les animaux qu'on envoie au pâturage, on devrait les faire mourir pour ne pas arriver à ce problème de les tondre ou de les faire travailler. Forcément, nous devons donc dire qu'il y a une différence entre la breta qu'on vient de voir, où il s'agit de choses rendues ekdesh, mais qui ne pourront jamais être utilisées, donc le problème peut surgir à la longue, alors que là, c'est un problème, c'est juste momentané pour une courte période de temps. Alors là, nous voyons que les Chachamim ne craignent pas à cela, c'est pourquoi ils disent qu'on envoie les animaux au pâturage. L'Agmara répond, Leolam takala akrava. Toujours pourrais-je te dire que la raison pour laquelle le taureau et le bouc ne pourront pas être gardés jusqu'à l'année prochaine, on les fera mourir, c'est à cause d'un problème qui pourrait surgir, qui est le fait qu'on risque de les offrir sur le Mizbéar par inadvertance. Alors pourquoi, pour tous les animaux qu'on envoie au pâturage, nous ne disons pas la même chose? La Gemara explique, tous les autres animaux qu'on envoie au pâturage, c'est parce qu'en fait ils ne sont pas aptes à être offerts sur le Mizbéar, c'est pourquoi l'otarit behu, il n'est pas préoccupé par le fait d'accomplir la mitzvah de les offrir sur le Mizbéar. Il ne risque donc pas de se tromper et il les laissera tranquillement au pâturage jusqu'à ce qu'ils aient un défaut et puissent être vendus. Har de Batakravahi, par contre, dans notre cas, le taureau et le bouc sont aptes à être offerts, c'est juste à cause d'un décret qu'on ne les emploie pas l'année prochaine. C'est pourquoi Taridba, il est préoccupé par la mitzvah d'offrir ces animaux sur le Mizbéar, il risque donc de les offrir par inadvertance. C'est pourquoi les Chachamim ont décrété que ces animaux devront mourir, on ne les enverra pas au pâturage. La Gemara continue, Vetakala Atma Tanaïhi. Et le fait de craindre qu'un problème surgisse est une machloket Tanaï. De Tania, ce que nous voyons dans une Breita. Pesach Shelokarat Barishon. L'agneau désigné pour être offert en tant qu'Orban Pesach, s'il n'a pas été offert le 14 Nissan, à l'occasion de la première fête de Pessah, Yikarev Bacheni, sera offert à l'occasion de la deuxième fête de Korban Pessah, donc le 14 Iyar. Bacheni, si cet agneau n'a pas été offert même à l'occasion de la deuxième fête de Pessah, le 14 Iyar, Yikarev, le Shanaba, on pourra l'offrir l'année prochaine s'il n'a pas encore dépassé une année après sa naissance, par exemple selon Rebbi. Betania Idar, nous voyons dans une deuxième Braïta, le Yikarev, s'il n'a pas été offert à l'occasion du la deuxième fête de Korban Pessah, le 14 Iyar, on ne pourra pas l'offrir l'année prochaine. Maïla Betakala Pligé, n'est-ce pas que la discussion entre ces deux Braïtot est une discussion, est-ce qu'on craint qu'un problème surgisse ou non? Donc selon la première Braïta, nous voyons que l'auteur de cette Braïta ne craint pas qu'un problème surgisse comme nous l'avons expliqué plus haut, et la deuxième raison craint qu'un problème surgisse, l'agma répond, non, ce n'est pas ça le sujet de leur discussion. Le kulalma, lo haishinon le takala. Nous pourrons toujours, pourrais-je te dire, que les deux auteurs de cette braïta ne pensent pas qu'on doit craindre qu'un problème surgisse. Vehacha, bepukta de rabbi verabanan kamifalge. Et ici, le sujet de leur discussion est la même discussion qu'entre Rabbi et Rabbanan que nous avons plus haut. Vela kashia, il n'y a pas de question entre les deux braïtas. Ha, Rabbi, la première braïta qui dit qu'un agneau désigné pour être offert en tant que korban pesach, qui n'a pas été offert à l'occasion de la première fête de Pessah ou à l'occasion de la deuxième fête de Pessah, le 14 Iyar, pourra être offert l'année prochaine. Cette braïta pense comme l'avis de Rabbi, qui dit que l'année des korbanot, c'est-à-dire l'année qui suit la naissance pendant laquelle on peut offrir l'agneau pour le korban Pessah, est comptée selon l'année solaire. Donc il est possible que d'un Pessah à l'autre, cet agneau n'ait pas encore atteint l'âge de 1 an, 365 jours. Ha Rabbanan, la deuxième braïta qui dit que ce korban Pessah, donc cet agneau qui n'a pas été offert la première année ne pourra pas être offert l'année suivante, pense comme Rabbanan, qui disent que l'année est comptée selon l'année lunaire, et donc, une fois arrivé la veille de Pessah l'année d'après, cet agneau a déjà dépassé l'âge de 1 an réglementaire. La Gemara demande, « Va'atania, voici que nous voyons dans une braïta de Chen Hama'ot, l'alakha sera la même si la personne a mis de l'argent de côté pour acheter le korban Pessah, et donc pour l'argent, il n'y a pas de problème si l'année est passée ou non. Et la lave, shmamina betakala figé. Donc obligé de dire que le sujet de leur discussion est à savoir si on craint qu'un problème surgisse, comme nous l'avons expliqué plus haut, ou non. Shmamina, la Gemara dit que c'est effectivement une bonne preuve. Et donc, selon l'avis de la deuxième braïta qui dit que nous craignons qu'un problème surgisse, et c'est pourquoi on ne peut pas garder un korban d'une année à l'autre, on comprend aussi pourquoi le taureau et le bouc qui n'ont pas pu être employés pendant le service d'Yom Kippour ne pourront pas être gardés pour l'année suivante et donc c'est pourquoi ils devront mourir. Nouvelle Mishnah. Donc nous revenons en arrière. Après que le Kohen Gadol termine les aspersions du sang du taureau et du bouc pendant le service d'Yom Kippour, Balo et Selfer Meshaleach, il venait à côté du bouc qui était destiné pour servir de bouc émissaire, le sommet jeté à Davalav et appuyer ses deux mains fortement sur lui. Umitvade et se confesser, le Kachayomer et ainsi disait. Ana Hashem, je t'en prie Hashem, Chatou, ils ont fauté par mégarde, à vous, ils ont fauté volontairement par passion, Pachou, ils ont fauté volontairement par rébellion, le Fanech Amcha Bet Israël, donc ils ont fauté devant toi, ton peuple, le Bnei Israël. Ana Hashem, je t'en prie Hashem, Kaperna, pardonne la Chataïm, ses fautes par mégarde, Bela Avonot, et ses fautes par passion, Bela Pshaïm, et ses fautes par rébellion, Shechatou, qu'ont fauté par mégarde, Bechavou, qu'ils ont fauté par passion, Bechepachou, et qu'ils ont fauté par rébellion, le Fanecha devant toi, Amchabet Israël, ton peuple, le Bnei Israël, Kakatou, le Torah de Moshe Abdecha, comme il est écrit dans la Torah que tu as transmis par Moshe, ton serviteur. Les morts, c'est ainsi que le passage dit, qui d'ayom hazé yechaper alechem, en ce jour de Yom Kippour, Akash Baruch Hu pardonnera vos fautes, le taher etchem mikol chatotechem, en vous purifiant de tous vos fautes, l'ifne Hashem titharu, vous vous purifierez devant Hashem. Veha kohanim veha am haomdim ba'azara, et les kohanim et le peuple, donc le Bnei Israël qui était debout dans l'azara, kshayu shomim shem am forash, quand ils entendaient le nom divin, quand ils sortirent de la bouche du Kohen Gadol, Hayu Korim ou Mishtachabim Venoflim Alpenehem, ils se courbaient, se prosternaient et tombaient sur leur face, Veomrim, et disaient Baruch Shem Kevod Malchuto, Le Olam Vaet. Nous avons déjà expliqué que pendant cette confession, c'était à trois reprises qu'il fallait se prosterner. Après cette confession, Masro le Mishahaya Molicho, le Kohen Gadol transmettait ce bouc à celui qui était désigné pour l'amener dégringoler dans la montagne. Hakol Kshérim Leolicho. N'importe quelle personne est apte à amener ce bouc. Et là, Shasu Akohanim Gdolim Keva. Mais les Kohen Gadol ont pris sur eux une loi. Velo Hayu Manichim et Israël Leolicho. Et ne laissez pas un simple Israël l'emmener, il choisissait toujours des Kohanim. Amar a dit Rabbi aussi, Masé, il y a eu une fois une histoire, Voholicho Arsela, et un nommé Arsela qui a amené le bouc pour l'envoyer dégringoler dans la montagne, Ve Israël Aya. Et c'était un Israël, ce n'était pas un Kohen. Le Kevesh Asulo, et le Kohen Gadol, ou le Beddin, a fabriqué une rampe qui menait du Beth Amikdash, donc de la Hazara, à l'extérieur de la ville de Yerushalayim, Mipne Ababliim, à cause des Babyloniens. Shayum et Talshim et Saro, parce qu'ils tiraillaient les cheveux de celui qui devait amener le bouc, Zomrimlo, Toulvetse, Toulvetse, prends et sors, prends et sors. En d'autres termes, dépêche-toi d'amener ce bouc pour ne pas que les fautes restent chez nous, pour qu'on soit pardonné. La Gemara a dit, nous voyons que le Kohen Gadol, quand le Kohen Gadol faisait sa confession par les justes d'Ebné Israël, Dilou, Bné Aaron, Am Kedoshecha, Lo Kamar, par contre il ne citait pas les enfants de Aaron, de ton peuple sacré. Nous comprenons donc que les Kohanim ne sont pas inclus dans cette confession. Mantana, quel est l'auteur de cette Mishnah? La Gemara répond, Amar Adi Rabbi Irmiya, de l'Oka Rabbi Yuda, cette Mishnah ne va pas selon l'avis de Rabbi Yuda. Dit que Rabbi Yuda, parce que si cette Mishnah allait selon l'avis de Rabbi Yuda, Ha'amar, voici que Rabbi Yuda a dit, comme nous l'avons vu plus haut, Daf Samechalef, Yeshlan Kapara Bissir Meshaler, les Kohanim ont aussi un pardon, ils sont inclus aussi dans le pardon, obtenu par le service du bouc émissaire. La Gemara a dit, répond, Abaye Amar a dit, Afilutema Rabbi Yuda. Toujours pourrais-je te dire que l'auteur de cette Mishnah est aussi Rabbi Yuda. Atu Kohanim, l'Abiklalam Chaisraelinu, est-ce que les Kohanim ne font pas partie du Klal Israël? Et en fait, quand le Kohen Gadol fait la confession sur le Klal Israël, les Kohanim, théoriquement, pourraient aussi être inclus. Masro, le Mishoholicho. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit que le Kohen Gadol transmettait ce bouc dans la main de celui qui était désigné pour l'amener dans la montagne. Tanou Rabbanan, le Chachamim ou Asinaz Braïta, le Pasuk qui parle du bouc émissaire, dit Veshilach Biad Ish Iti Amidbara, et le Kohen Gadol l'enverra dans la main d'un homme désigné pour cela dans le désert. Alors, au terme de Ish, l'Archir et Azar vient permettre même une personne étrangère au service, donc une personne qui n'est pas Kohen, d'amener ce bouc pour l'envoyer dégringoler dans la montagne. Le terme de Iti peut être traduit de deux manières.
Vous êtes en plein cours de Guémara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous tournons la page Adaf Samasar Vamoudbet. Alors, première traduction, Sheye Mezuman, c'est-à-dire une personne qui a été désignée spécialement pour cela la veille de Yom Kippour. Deuxième traduction, Iti veut dire sera envoyé à temps et cela dans n'importe quelle circonstance. Cela voudra dire que Iti Bafilou Beshabbat, même si le Yom Kippour tombe à Shabbat, ce bouc sera envoyé, Iti Afilou Betouma, donc ce bouc sera envoyé à temps, même s'il y a un problème de Touma. La Gemara expliquera quel problème il peut y avoir. La Gemara demande, Ish, l'Archir et Tazar, le terme de Ish vient permettre une personne étrangère au service d'amener ce bouc dans le désert, Chita, c'est évident, quel problème il y a. La Gemara répond, Maoudé Tema, j'aurais pu dire kapara kivé, à propos du bouc émissaire, la Torah emploie le terme de kapara qui veut dire obtenir le pardon, et donc nous savons que le pardon ne peut être obtenu que par le service d'un Kohen, donc on aurait pu croire qu'une personne étrangère au service ne puisse pas amener ce bouc dans le désert. Kamash Malan, c'est pourquoi le Pasuk nous enseigne que même une personne étrangère au service pourra l'emmener dégringoler dans la montagne. Iti, Bafilo Beshabbat, le terme de Iti qui veut dire même le Shabbat, ce bouc sera amené dans la montagne. Le Maïlcheta, qu'est-ce que cette... Quel halakha nous apprend ce pasouk? En fait, quel problème pourrait-il y avoir d'amener ce bouc dans le désert? Agma répond, Amar Adi Rav Shechet. L'Omar, ce pasouk vient nous enseigner, Shui Maïa Cholé, si ce bouc est tombé malade, Mar Kivol qui était fausse, celui qui doit l'amener pourra le porter sur ses épaules. Donc là, il y a l'interdiction de porter le Shabbat, et quand même, le pasouk nous dit qu'il aura le droit de le faire. La Gemara demande Keman de l'Okarbinata. Quel est l'auteur de cet enseignement? Ça ne pourra pas aller selon l'avis de Rabbi Nathan. Dit Rabbi Nathan, si nous voulions dire que cet enseignement va selon Rabbi Nathan, c'est impossible parce qu'il dit dans une braïta dans Maseret Shabbat, Chai Noset Asmo, un être vivant se porte lui-même. En d'autres termes, puisque une personne vivante est plus légère qu'une personne morte. Nous voyons donc qu'une personne se porte elle-même, et c'est pourquoi il n'y a pas l'interdiction de porter une personne, ou que n'importe quoi de vivant. Donc là, le fait de porter le bouc, selon Rabbi Nathan, ne poserait pas de problème. L'Agma répond à Filou Tema Rabbi Nathan. Toujours pourrais-je te dire que l'auteur de cette braïta est Rabbi Nathan. Khala Shani, mais là, puisqu'il est tombé malade, c'est différent. Là, il n'a plus la force de se supporter lui-même, et donc celui qui le porte transgressera l'interdiction de porter le Shabbat. C'est pourquoi le pasouk a besoin de nous enseigner qu'on aura le droit de le faire même si ça tombe à Shabbat. Amar Adir Afram, Zotomeret, de cette braïta, nous voyons que Eruv Veotsa le Shabbat, les interdictions de porter que les Chachamim ont décrété le Shabbat, par exemple de porter d'une ruelle à une cour ou vice versa sans faire de Eruv, qui résulte de l'interdiction de porter le Shabbat, qui est l'interdiction de porter dans un domaine public, n'existe que pour le Shabbat. Ben Eruv Veotsa Liom HaKippurim, mais il n'y a pas d'interdiction de porter d'une ruelle, par exemple d'une ruelle à une cour ou vice versa sans faire de Eruv, ni il n'y a d'interdiction de porter dans un domaine public ou d'un domaine privé à un domaine public le jour de Yom Kippour. Et c'est pourquoi le pasouk a eu besoin de nous enseigner que si le Yom Kippour tombe le Shabbat, on pourra porter ce bouc s'il tombe malade. Alors que si il y avait aussi une interdiction de porter le jour de Yom Kippour, du fait que la Torah nous enseigne que ce bouc sera envoyé Yom Kippour, nous comprenons déjà que la Torah ne fait pas cas de l'interdiction de porter à propos de ce bouc. La Torah donc n'aurait pas eu besoin de nous enseigner que si le Yom Kippour tombait le Shabbat, on emmènerait quand même ce bouc dans la montagne. Iti Bafilu Betuma. La Braïta nous dit que du terme de Iti, nous apprenons que dans toutes circonstances, ce bouc sera emmené dans la montagne, même s'il y a un problème de Touma. Le Ma'il Khata, quel halakha nous apprenons de là? Quel problème de Touma pourrait-il surgir à propos de ce bouc émissaire? L'Agma répond, Amar a dit, Rav Shechet, Lomar Shinu Touma Meshalcho, si celui qui devait emmener ce bouc émissaire est devenu impur, Nichnas Tame Lazara ou Meshalcho, il pourra rentrer, même s'il est impur, dans la Hazara, pour le prendre des mains du Kohen Gadol et l'envoyer dans la montagne. Et cela, parce qu'explique le Shittam Kubeset dans Kletout d'Afiud Dalet, le pasouk dit à propos du bouc émissaire, Yom Adcha Ilifne Hashem, etc. Le Shalachoto, ce bouc se tiendra debout devant Hashem pour l'envoyer dégringoler dans la montagne. Nous comprenons de ce pasouk que c'est à partir d'un endroit qui est devant Hashem, donc dans la Hazara, que se faisait l'envoi. Donc nécessairement, celui qui devait emmener le bouc devait rentrer dans la Hazara pour le chercher. Puisque, comme nous l'avons vu plus haut, la Torah insistait sur le fait que c'était la personne qui était désignée, la veille de Yom Kippour, qui devait emmener ce bouc dans la montagne. Donc, forcément, il rentrera dans la Hazara, même s'il est devenu impur. Sha'alu et Rabbi Eliezer. Les élèves ont demandé à Rabbi Eliezer, Khala, si le bouc émissaire est tombé malade, est-ce que celui qui doit l'emmener aura le droit de le porter sur ses épaules? Amar Lahem, Rabbi Eliezer leur a répondu, Yachol hu l'arkiv anibate. Qu'est-ce que vous me demandez une question pareille? Le bouc choisi était toujours assez puissant de manière à ce qu'il puisse me porter à moi et vous en même temps. L'Agmar expliquera plus loin pourquoi il n'a pas donné de réponse directe à la question qui lui a été posée. Les élèves ont continué à demander à poser des questions à Rabbi Eliezer. Chalam et Shalcho, si celui qui devait emmener le bouc émissaire est tombé malade, Maou chez Shalchen ou Biadacher, est-ce qu'il aura le droit de l'envoyer par quelqu'un d'autre? Amar Lahem, Rabbi Eliezer leur a répondu, Ehe Beshalom, Ani Batem. Pourquoi vous me posez une question pareille? De toute façon, ce n'est ni moi ni vous qui devons l'amener, alors de toute façon, ne vous posez pas de questions. D'Arfo Velomet, si une fois arrivé dans la montagne, celui qui a emmené le bouc émissaire l'a fait basculer par-dessus les rochers, mais en tombant, il n'est pas mort, Maouchere d'Acharavi Mitenu, est-ce que cette personne qui a emmené le bouc, il devra descendre pour le tuer? Amar Lahem, il leur a répondu, Ken Yovedu Kol Evecha Hashem. Il a rapporté ce pasouk qui provient de la chanson de Deborah, quand les Sisera et ses soldats sont morts. Alors, le pasouk dit, ainsi périront tes ennemis Hachem. Alors, il a voulu dire, dire comme ça. Comment, qu'est-ce que vous me posez comme question? Je souhaite qu'ainsi périssent tous les ennemis d'Hachem, c'est-à-dire n'importe qui est basculé par-dessus les rochers, de toute façon, mourra. Les Chachamim Omrim disent, Chala Malkibar Ketefo, si le bouc émissaire est tombé malade, celui qui doit l'emmener pourra le porter sur ses épaules. Chala Meshalcho, si celui qui doit emmener le bouc est tombé malade, Yishalchenu Liad Acher, il pourra l'envoyer par quelqu'un d'autre. Darfo Velomet, s'il a fait basculer le bouc par-dessus les rochers et le bouc n'est pas mort, Yered Acharav Imitenu devra descendre après lui pour le tuer. Shalou et Rabbi Eliezer. Les élèves de Rabbi Eliezer lui ont encore posé la question suivante. Ploni Mahu Lola Maba. Est-ce que telle personne mérite une part dans le monde futur? Cette question fait allusion à Shlomo Ameler, à propos duquel le Nabi dit qu'à la fin de ses jours, ces femmes ont détourné son cœur en direction des idoles. La question se pose donc, est-ce qu'il a effectivement commis l'idolâtrie et donc a perdu sa part dans le monde futur ou non? Amar Lahem, Rabbi Eliezer leur a répondu, Loshal Toni et Lal Ploni, pourquoi ne m'avez-vous pas demandé, poser la question à propos de telle autre personne, faisant allusion ici à Abshalom, qui était donc le frère de Shlomo, parce que le Navi dit à son sujet qu'il a été avec les concubines de son père. La question se pose, est-ce que les concubines sont considérées comme des femmes à part entière avec les Kiddushim, et donc il a perdu sa part dans le monde futur, ou bien les concubines sont des femmes qui sont réservées peut-être pour une personne, mais n'ont pas reçu les Kiddushim. À ce moment-là, il n'a donc pas perdu sa part dans le monde futur. Les élèves de Rabbi Eliezer lui ont posé une autre question. Maoule Asil Roé Kibsa Min Haari. Est-ce que le berger a le droit de sauver la brebis du lion qui veut l'emporter, la tuer? Cette allégorie fait allusion à une histoire bien connue. Le berger ici fait allusion à Uriah qui était marié à Bathsheba. Dans cette allégorie, c'est la brebis. Et le lion, il s'agit de David Ameler. Donc quand Uriah est parti en guerre, David Ameler est allé avec Bathsheba. Alors la question se pose, est-ce que c'était une action interdite? Et donc le berger Uriah avait le droit même de tuer David Ameler pour sauver sa femme, pour ne pas commettre l'adultère. Ou bien, nous disons que, comme c'était l'usage à l'époque, ceux qui partaient en guerre donnaient le divorce à leur femme pour le cas où ils ne reviendraient pas après la guerre. Et donc, David Ameler n'a pas commis d'adultère. Et donc, il n'y avait aucune raison d'essayer de sauver Bathsheba des mains de David Ameler. Amar Lahem, Rabbi Eliezer leur a répondu, Loshal Tunira la Kibsa, vous n'avez rien d'autre trouvé de mieux à demander que sur la brebis. Parce qu'il y a d'autres questions plus intéressantes à poser. On a donc posé une autre question qui suit justement la question précédente. Maoula Tila Roé Minahari. Est-ce qu'on a le droit de sauver le berger du lion qui veut l'emporter et le tuer? C'est à la suite de l'histoire. David Ameler a envoyé Uriah, donc le berger, au front pour qu'il se fasse tuer. Alors la question se pose, est-ce que à ce moment-là, David Ameler était considéré comme assassin et on avait le droit même de le tuer pour sauver la victime, Uriah? Ou bien, puisque comme la Gemara explique dans Maseret Shabbat Daf Nun Vav, Uriah a manqué de respect envers David Ameler. Il a traité Yoav, le général, comme étant son maître. Il a dit Adoni Yoav, mon maître Yoav. C'est un manque de respect envers le roi. Et donc, il est considéré comme quelqu'un qui se rebelle envers le roi. Le roi a le droit de le tuer à ce moment-là. Si c'est comme ça, donc David Ameler n'est pas considéré comme un assassin. Et il n'y a aucune raison donc d'essayer de sauver Uriah de ses mains. Amar Lahem, Rabbi Eliezer leur a répondu, Lo Shaltuni et la Laroé, vous n'avez rien trouvé de mieux à me demander que sur le berger. Et en fait, d'autres questions à poser. Bon, les élèves ont posé une autre question à Rabbi Eliezer. Mamzer Mahulirash, est-ce qu'un enfant né d'un mariage illicite hérite ses parents quand il meurt? Elle leur a répondu, Mahuli Abel, vous aurez pu me demander aussi, est-ce qu'il devra se marier avec la femme de son frère si son frère meurt sans enfant? Les élèves ont posé une autre question à Rabbi Eliezer. Maoul Asoud et Beto. Est-ce qu'on a le droit de peindre sa maison avec de la chaux. De nos jours, nous n'avons pas le Beit HaMikdash, ou bien est-ce qu'il ne faut pas le faire en signe de deuil? Il a répondu, Mahou la soulette Kibro, vous aurez pu aussi me demander, est-ce qu'on peut verser de la chaux sur une tombe? Alors la Gemara maintenant explique pourquoi, à propos de toutes ces questions, Rabbi Eliezer n'a pas répondu, il s'est dérobé de répondre normalement à ces questions. Alors la Gemara explique, l'homme est venu chez Fidjam Bedvarim, ce n'est pas parce qu'il a voulu détourner leur attention de la question, comme on le fait quand on ne sait pas répondre, et là, Mipne, Shelo Amar Davar, Shelo Shama, Mipi Rabo Meolam. C'est parce qu'il n'a jamais répondu, il n'a jamais dit quelque chose qu'il n'a pas entendu de ses maîtres. C'est pourquoi, ces questions, à propos de ces questions, il n'avait rien entendu de ses maîtres. C'est pourquoi, il n'a rien voulu dire à ses élèves, bien qu'il avait de quoi dire. Sha'ala, Isha Chachama, et Rabbi Eliezer. Une femme intelligente, donc versée dans la sagesse de la Torah, a posé la question suivante à Rabbi Eliezer. Puisque toutes les manières dont était servi le veau d'or sont interdites de la même manière, comme quelqu'un qui commet l'idolâtrie, pourquoi ceux qui ont servi le veau d'or ne sont pas tous morts de la même manière? En effet, la Torah écrit qu'une partie de ceux qui ont servi le veau d'or sont morts ont été tués par l'épée, d'autres sont morts par la peste. Et d'autres, enfin, sont morts par une maladie qui s'appelle Hydrocam, qui cause le ventre de s'enfler jusqu'à éclater. On apprend ça du fait que la Torah dit que Moshe a pilé le veau d'or, a versé la poussière provenant de ce veau dans le ruisseau qui coulait de l'Arsinaï, et a fait boire ainsi les Bnei Israël. La Gemara dans Avodah Zarah, la Femme d'Alet explique que Moshe Rabbeinu a fait boire les Bnei Israël de cette eau pour les faire mourir de la même manière que qu'on faisait mourir la femme soupçonnée d'adultère. Amarla, Rabbi Eliezer a répondu à cette femme, En chokhma l'isha et la beplach. L'intelligence de la femme ne peut s'exprimer que dans le fuseau ou la filature. Rechen ou Omer, et ainsi le pasuk dit dans Parashat Truma, Bechol isha chachmat lev, be'adeh atavu. Et toutes les femmes intelligentes ont filé avec leurs mains. En fait, ce que Rabbi Eliezer a voulu répondre ici, c'est qu'on n'a pas le droit d'enseigner la Torah à une femme, comme d'ailleurs il le dit lui-même clairement dans Maseret Sota d'Afraf. Itma, il a été dit, justement pour expliquer ou répondre la question que cette femme a posée, Rav Velevi, une discussion entre Rav et Levi. Chadamar, un des deux dit, Ziber Vekiter Betayef, celui qui a sacrifié des animaux ou offert de l'encens pour le veau d'or, a été tué par l'épée. Gifef Venishek Bemita, celui qui a enlacé ou embrassé le veau, est mort par la peste. Samach Belvavo, s'il s'est réjoui dans son corps intérieur, mais n'a pas fait plus que ça. Behidrokan, il est mort par cette maladie qui s'appelle Hydrokan, qui, comme nous l'avons expliqué, essentiellement fait enfler le ventre jusqu'à ce qu'il éclate. Le Chadamar, et le deuxième dit, c'est Edim Vatra Besayef, celui qui a été vu par des témoins servir le veau d'or, et en plus a été averti par les témoins que s'il servait le veau d'or, ce serait commettre l'idolâtrie, et donc mériterait la peine de mort, a été tué par l'épée. Edim Belotra, si la personne a été vue par des témoins servir le veau d'or, mais n'a pas été averti, Bemita est mort par la peste, donc par les mains d'Hachem. Loedim Velo Atra, mais si il n'a ni été vu par des témoins et non plus a été averti que s'il le faisait, mériterait la peine de mort, alors lui est mort par cette maladie qui s'appelle Hydrocam, qui faisait donc enfler le ventre jusqu'à ce qu'il éclate. Amar a dit, Rabbi Houda, Shivto Shel Levi, Lo'avad Avodat Kochavi. La tribu de Lévi n'a pas commis l'idolâtrie, n'a pas participé à la faute du veau d'or. Chez Neymar, comme le pasouk dit dans Parashat Kitissa, Vayamod Moshe Beshar Amachane, Moshe s'est tenu debout à la porte du camp, et à la suite du pasouk est, il a annoncé, qui c'est qui, que tous les fidèles envers Hachem se rassemblent chez moi, le pasouk a dit, et toute la tribu de Lévi s'est rassemblée autour de Moshe Rabbeinu. nous voyons bien qu'ils étaient, sont restés fidèles à Hachem, n'ont pas commis l'idolâtrie. Yativ Ravina, le Kamar le Hashmata. Ravina était assis et disait cet enseignement. Etive, Bene Rav Papa Baraba, les enfants de Rav Papa Baraba ont posé la question, le Ravina à Ravina. Voici que le Pasuk dans Bezot Abracha, qui bénit la tribu de Lévi, dit Ha Omer le Aviv Ulimo l'Oreitiv. Celui qui dit à propos de son père et de sa mère, je ne les ai pas vus, je ne les connais pas. Ce pasouk fait allusion à la période de la, du péché du Vaudor. Donc le pasouk dit que les descendants de la tribu de Lévi n'ont même pas eu pitié de leurs parents et donc ont été prêts même à les tuer s'ils avaient commis l'idolâtrie. Donc nous voyons que, qu'il se peut qu'il y ait des descendants de la tribu de Lévi qui ont fauté. Agma répond, Aviv, quand le pasouk parle du père, Aviv Imom Israël. Il s'agit en fait pas du père, mais du grand-père maternel, qui lui pouvait venir de la tribu de Israël. Mais les descendants directs de la tribu de Lévi n'ont pas fauté dans le Vaudor. La suite du pasouk dit Ve'etechav lo ikir, et il n'a pas reconnu son frère. Donc là aussi nous voyons qu'il se peut qu'il était prêt même à tuer son frère qui avait commis l'idolâtrie. La Gemara explique, Achiv ou Echav, il s'agit ici de Echav Meimom Meisraël. Il s'agit ici d'un demi-frère maternel qui serait né d'un mariage antérieur avec un Israël. Donc c'est un demi-frère qui ne descend pas de la tribu de Lévi. Le pasouk continue, Ved Banav Leada, il ne connaissait pas ses enfants. Donc là nous voyons qu'il se pouvait qu'il y avait des enfants de la tribu de Lévi qui ont fauté dans le Vaudor et donc ont été tués par ceux qui étaient restés fidèles à Hachem. Alors l'Agma explique, Banav, il s'agit ici de Bnei Bitom Israël, de ses petits-enfants, non pas de ses enfants. Donc il s'agirait ici d'enfants de la fille d'un descendant de la tribu de Lévi qui serait marié avec un Israël. Alors lui effectivement aurait pu fauter et il aurait pu être tué par un descendant de la tribu de Lévi, par exemple son grand-père. Bekevesh Asulo. L'Agma reprend le passage de la Mishnah qui dit que une rampe a été ou un pont a été construit menant de la Hazara à l'extérieur de Yerushalayim par lequel le bouc sortait de la ville d'Yerushalayim pour être emmené dégringolé dans la montagne. La Mishnah explique que ce pont avait été fait à cause de Babyloniens qui tiraillaient les cheveux de celui qui emmenait le bouc pour l'exhorter à se dépêcher. Amar a dit Rabba Rabba Hana, lo Babli Mayu, ce n'était pas des Babyloniens, et là, Alexandrie Mayu, c'était des Juifs venant d'Alexandrie. Alors pourquoi la Mishnah a parlé de Babyloniens? L'Agma explique, Umitor Shesonim et Tabablim, puisque les habitants d'Israël haïssaient les Babyloniens, Hayu Korim Otam Al-Shmam, c'est pourquoi il les dénigrait toujours en disant que toutes les mauvaises actions ou mauvaises conduites étaient faites par des Babyloniens. Tania, l'étancien de Dazim Breitar, Rabbi Yehuda Omer dit, l'Obabli Mayou, ce n'était pas des Babyloniens, et là, Alexandrie Mayou, mais ce n'était des Juifs venant d'Alexandrie qui se conduisaient de cette manière. Amarlo lui a dit, Rabbi aussi, donc à Rabbi Yehuda, Tanoar Datra, je souhaite que ta conscience soit apaisée, que tu aies la paix de l'esprit, chez Narta et Dati, parce que tu m'as apaisé. Rabbi aussi, lui, descendait de parents venant de Babylone. Il était donc gêné de voir les Babyloniens traités de cette manière. L'Agma reprend le passage de la Mishnah qui dit tout le vétré, prends et sort. Alors, Tana, on voit dans une Breita qui explique justement cette phrase, Ma Shahed Sfiradel, pourquoi est-ce que tu laisses traîner ce bouc ici, de Chobé Dara Sagi'in, et alors que les péchés de la génération sont nombreux, et donc il faut donc vite emmener ce bouc pour obtenir le pardon sur les péchés de la génération. Nous avons fini le shiur de Yuma Dav Samechtov. Nous commençons le shiur de Yuma Dav Samechtov. Nous commençons Dav Samechtov à la Mishnah en bas de la page. Mi kirei Yerushalayim hayu melavim oto ad sukkah rishona. Des notables de Yerushalayim accompagnaient celui qui emmenait le bouc jusqu'à la première cabane qui se trouvait sur son chemin. Nous verrons plus loin l'utilisation de ces cabanes. Esser Sukkot Mirushalayim Vehatzouk. Il y avait 10 cabanes situées sur le parcours entre la ville de Yerushalayim et le rocher par-dessus lequel le bouc était basculé.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi, quotidiennement en vidéo.